Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver sur ce canal du Jardin du Curé, hébergé toujours par l'Homme Nouveau, que je remercie spécialement. Nous arrivons, hélas en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, au terme de notre première saison, il paraît que c'est comme ça qu'il faut dire aujourd'hui, le temps des martyrs dans notre histoire de l'Église. Voilà, je souhaite, j'espère que vous aurez envie de poursuivre ce parcours avec moi. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, deux choses. Nous allons voir naître le monachisme, et puis nous essaierons de faire un petit récapitulatif très modeste de notre parcours, peut-être de manière à en tirer quelques petites leçons, ou de poser quelques questions, de revenir sur telle ou telle chose de manière très rapide, mais de manière aussi à conclure cette première saison. Alors avant tout, avant de terminer, chers amis, je vous rappelle toujours, j'insiste, un petit pouce, un partage. Voilà, le Jardin du Curé hébergé par l'Homme Nouveau, pour reprendre un slogan. Ne vit que grâce à vous, et donc, voilà, nous avons besoin de votre soutien. L'Homme Nouveau a besoin de votre soutien, la presse catholique a besoin de votre soutien, comme vous avez besoin d'elle, voilà, pour éclairer notre quotidien, pour voilà, nous soutenir les uns les autres. J'en passe, et des meilleurs, vous le savez aussi bien que moi, mais ça passe par des gestes concrets, bien sûr aussi par des gestes financiers, ne l'oubliez pas, l'Homme Nouveau a besoin de vous. Tout ça est sans prix, mais à un coût. Alors, je reviens donc à mes sujets pour aujourd'hui. Tout d'abord, l'origine du monachisme. Alors, ce qui est très intéressant, et ce que j'ai un peu découvert aussi grâce à vous, en faisant mes petites recherches, c'est que, eh bien, figurez-vous qu'entre le temps des martyrs et la naissance du monachisme sont très liés. Je m'explique. Nous avons vu ces persécutions extérieures, tout ce qu'elles ont engendré, tout ce qu'elles ont fait naître de l'Église, de sainteté, d'exemplarité, de pratique spirituelle, d'amélioration dans la compréhension des sacrements, bref, d'enrichissement de la foi. Mais on sait aussi que... ce temps des martyrs a été l'occasion, le prétexte pour un certain nombre de chrétiens aussi, face à la persécution, face à l'opposition des institutions, face aux menaces de la police, de la loi. Certains ont choisi, de manière provisoire et aussi de manière définitive, je dirais d'éviter, non pas de refuser le martyre, ou l'épreuve, mais l'Empire étant grand, les régions peu peuplées assez nombreuses, d'aller s'installer en marge de l'Empire. Au fond, reprenant un petit peu l'invitation de l'Évangile, de secouer la poussière de leurs souliers et d'aller s'installer un peu plus loin, à l'abri des regards, pour mener une vie chrétienne authentique, et sans la perpétuelle épée de Damoclès... de la persécution ou de la mort au-dessus d'eux. On le voit par exemple dans la vie de certains saints, dont nous reparlerons peut-être un jour aussi, que nous allons évoquer très très rapidement aujourd'hui. Je pense à saint Basile par exemple, qui, profitant d'une propriété familiale située en marge de sa province, va s'y installer discrètement pour y mener sa vie chrétienne, sa vie spirituelle et religieuse, à l'abri des regards, dans la paix, le recueillement, et de facto menant une vie retirée. On sait aussi que les crises de l'Empire, les guerres, la conscription, les impôts, les taxes, l'écrasement par les impôts ont, favorisé aussi dans la population, ça c'est d'un point de vue un peu plus sociologique, l'installation en marge de l'Empire d'une population en marge de la société. Plus ou moins brigands, plus ou moins... échappant à l'impôt, échappant au servage, échappant à l'esclavage, etc., etc., profitant des régions les moins surveillées pour mener une vie, encore une fois, échappant aux règles de la société. On le sait, les historiens l'ont remarqué. À la suite des difficultés politiques, militaires, sociales de l'Empire romain tardif. Et donc, il y a voilà, une sorte de fuite, sorte de fuite d'une partie de la population qui vient se conjuguer avec, disons, une des réponses que certains chrétiens ont données à la persécution. Dans cette histoire générale, dans ce cadre que je viens de vous dessiner, un personnage apparaît. Alors évidemment, sur le coup, je dirais, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de... Disons qu'il y a un climat favorable, il y a un esprit du temps, il y a la fin de la persécution qui induit aussi, je l'ai oublié, et c'est vrai que c'est important aussi, les historiens de l'Église ont souligné, un certain relâchement. Voilà, on sait bien que on ne sera pas convoqué chez le préfet ou au commissariat de police pour décliner son identité ou avouer sa foi chrétienne. On n'est plus menacé par le bûcher, les bêtes ou les jeux du cirque. L'Église est même institutionnalisée, les évêques deviennent des personnages officiels, l'empereur offre des lieux de culte à la communauté chrétienne, bref... c'est la grande éclosion, la grande liberté, mais c'est aussi le temps du relâchement, voire même de l'arrivisme. Si l'empereur se dit chrétien, évidemment, pour faire carrière dans l'administration, dans l'armée, certains, toujours les petits malins qu'on retrouve à toutes les générations, se disent que, voilà, si on s'affiche comme chrétien, ben, ma foi, peu importe, personne n'ira vérifier à l'intérieur, mais au moins, ça fera plaisir à l'empereur ou au chef de bureau ou au chef de service. Donc un certain relâchement, et évidemment, le culte entretenu du temps des martyrs marque le contraste entre ceux qui étaient capables de donner leur vie pour Jésus et puis le temps d'aujourd'hui. D'où cette réaction. Alors, elle va apparaître en plusieurs endroits, mais la tradition de l'Église repère un lieu et une personne. Il s'appelle Antoine. Qui est-il ? En fait, il s'agit d'un jeune agriculteur, un jeune paysan de la vallée du Nil, on dirait un fellah aujourd'hui, qui possède quelques biens, qui a le souci d'une vie chrétienne authentique, et qui un jour, assistant à la messe du dimanche, entend l'évangile que tout le monde connaît, dans saint Matthieu. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. » Et dans l'âme d'Antoine, c'est un éclair. Il est saisi par cette parole. Selon les usages du temps, il case sa jeune sœur, dont il était responsable, après la mort de ses parents, il vend ses biens et il part. Et où aller ? Pour vivre comme le Christ, radicalement à sa suite, sans bien, sinon dans des régions aux frontières de l'Égypte, et ce n'est jamais bien loin des bords du Nil, dans le désert. Là, souvent, en plus, ce qui a donné lieu à une légende en disant que les moines vivaient dans des tombeaux, ben de fait, il y a les restes de ces sépultures égyptiennes et qui font des abris faciles à occuper, qui n'a pas besoin de construire, et qui, voilà, fort utile pour ce premier solitaire. Et là, Antoine va, en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, inventer la vie monastique. Il est seul, monos en grec, qui donnera son nom à cette catégorie de chrétiens, qu'on appellera aussi ermite ou anachorète, qui vont consacrer entièrement leur vie à la prière, à la pénitence, à ce que bientôt on appellera la vie angélique, c'est-à-dire une vie qui est déjà en quelque sorte entrée dans la vie éternelle dès cette terre. je l'ai dit, pénitence, travail manuel pour se nourrir, et aussi, d'une façon ou d'une autre, que les moines sachent lire ou ne le sachent pas, ce que l'on appellera aussi plus tard dans la tradition monastique la lectio, c'est-à-dire la lecture de l'Écriture sainte, en règle générale, surtout basée, centrée sur la récitation des psaumes. Voilà. C'est l'intuition de départ, c'est l'intuition fondamentale, c'est ce en quoi Antoine est un modèle et va devenir le père des moines dans toute la chrétienté. Alors on le sait, là aussi ça fait partie de mes petits dadas, il n'y a pas de génération spontanée dans l'Église, les formes de vie chrétienne ne tombent pas du ciel toutes faites, hein, il y a l'inspiration du Saint-Esprit, mais la grâce ne remplace pas la nature. Et donc, je vous ai expliqué le cadre général, on sait aussi que dans beaucoup de traditions religieuses, en dehors même du christianisme, y compris dans le judaïsme, il y a eu de ces formes de vie radicale, entièrement consacrées. Évidemment, on pense à Jean-Baptiste, saint Jean-Baptiste, on pense aussi aux fameux Esséniens, dont on a découvert la bibliothèque il y a 70 ans environ, au bord de la mer Morte. Bref, et on sait que dans beaucoup d'autres traditions, et d'ailleurs en Égypte, on connaissait par exemple la tradition des sages de l'Inde qui aussi vivaient nus, cherchant à lutter contre leurs passions en pratiquant des techniques corporelles favorisant la vie spirituelle que les écoles de philosophie grecque avaient repérées, les historiens grecs, et qu'on appelait les gymnosophistes, qui devaient correspondre plus ou moins. Alors là, je m'avance peut-être un peu, mais au yoga, si vous voulez, hein, et au sadhu de la tradition indienne. Bref. Donc, si vous voulez, saint Antoine ne tombe pas du ciel, même si il est poussé par l'Esprit-Saint au désert comme Jésus, et qu'il veut vivre cette vie entièrement consacrée à lui. Ce qui est intéressant aussi pour nous, et qui est aussi une leçon sur la manière dont l'Évangile avance, dont la vie chrétienne se développe, etc., saint Antoine, qui avait voulu vivre seul, se retrouve bientôt entouré de disciples. La sainteté attire. Plus vous fuyez les hommes, diront les moines d'Égypte, plus ils vous courent après. C'est un grand classique. C'est même une sorte de gage d'authenticité de la vie érémitique et de la vie monastique, c'est que plus vous fuyez les hommes pour courir après le bon Dieu, et souvent, plus vous ayant vu partir dans la bonne direction, ils se mettent à vous suivre. D'où un grand combat et une grande difficulté à gérer cette relation entre le monde intérieur, le monde extérieur, la vie monastique et la vie extérieure, etc. Bon, tout ça, on en reparlera probablement, en particulier quand on parlera de Saint-Benoît. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est qu'il y a donc ça. Et le deuxième aspect intéressant, à mon sens, c'est que, et ça ferait plaisir aux gens de la communication d'aujourd'hui, c'est qu'il y a Antoine, sa vie, son expérience authentique, et puis il y a celui qui va en faire, passez-moi l'expression, la publicité. À savoir, le grand évêque d'Alexandrie, grand confesseur de la foi, grand défenseur de la foi au Christ, dont on reparlera, saint Athanase, qui va écrire une vie d'Antoine, dans laquelle il va résumer et présenter l'expérience spirituelle. Et c'est à travers ce livre et sa traduction latine que l'expérience monastique des pères d'Égypte, puisque Antoine va avoir de nombreux successeurs, on n'a malheureusement pas le temps d'en parler, en particulier ceux qu'on appelle les pères du désert, hein, qui vont en quelque sorte être la matrice autour d'Antoine, avec d'autres grandes figures de sainteté monastique pour fonder cette expérience particulière qui va irriguer et qui continue à irriguer la vie de l'Église aujourd'hui. Hein, suivre fondamentalement, radicalement Jésus en abandonnant tous ses biens, en renonçant à ce monde pour se consacrer à Dieu entièrement, autant qu'il est possible. Eh bien, c'est grâce en particulier à ce récit, à cette vie d'Athanase, qui va être une sorte de best-seller, et qui va se répandre aux quatre coins de l'Empire. À tel point, et je vais terminer par cette petite anecdote, Il faut savoir que dans sa quête spirituelle, cherchant à droite et à gauche comment il pouvait répondre au Seigneur, un jeune fonctionnaire de l'Empire d'origine africaine et nommé et étant dans la région de Trèves, découvrira aux portes de la ville, dans une pauvre cabane, un homme qui lui paraîtra assez étrange et qui lui fera part et qui lui remettra et lui donnera à lire la vie de saint Antoine par Athanase. Et ce jeune homme, ce jeune fonctionnaire, s'appelait Augustin. Il était originaire d'Hippone. Vous voyez de qui je veux parler. Voilà. L'expérience monastique va se répandre comme un feu de poudre d'un bout à l'autre de la chrétienté, même à l'extérieur de l'Empire romain, et elle va s'enraciner, s'approfondir, elle va même s'organiser avec ce que l'on va appeler les règles monastiques. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans la deuxième saison, si ça dépend un petit peu de vous aussi, hein. Et ainsi devenir, je dirais, une part entière de la vocation chrétienne. Voilà, je vais être obligé de m'arrêter là. J'ai déjà été bien bavard. Et maintenant, quelques petits mots de conclusion. Nous avons donc parcouru les trois premiers siècles environ, trois premiers siècles des temps de l'Église, qui ont été marqués par, évidemment, l'incarnation. Nous ne l'avons pas évoqué directement. Puis, par le temps des apôtres, la prédication apostolique, nous avons évoqué Saint-Pierre et Saint-Paul. Ça, c'était du temps de la première version du jardin du curé. Puis ensuite est venu le temps des apologistes, rendre raison de la foi, défendre la foi avec l'usage de la raison. Témoignage reçu des apôtres dont nous rendons raison. Pourquoi est-il raisonnable? Pourquoi est-il juste? Pourquoi est-il vrai de devenir chrétien, de suivre le Christ, de chercher à l'imiter, voire même de s'identifier à lui d'une certaine façon? Ce fut le temps des pères apologistes. Mais ce discours, avec des mots, avec des arguments, premières esquisses d'une philosophie chrétienne, premières esquisses d'une théologie de la foi, elle va être en quelque sorte scellée, cimentée. Ces premières esquisses, être scellées et cimentées dans le sang des martyrs. De saint Ignace d'Antioche, celui dont nous avons le premier témoignage, j'allais dire direct et personnel, à tous les autres, en passant par des milliers d'anonymes, comment l'Église, par le sang des martyrs, est devenue la grande Église, est devenue majoritaire dans l'Empire romain, ce qui a permis d'obtenir des autorités le basculement de leur conception de l'ordre des choses, le changement de la juridiction et la paix de l'Église. Qui, sans que s'arrête le train de l'histoire, sans que s'arrête le pèlerinage de l'Église sur cette terre, va donner à ce moment-là naissance en particulier à cette autre magnifique et grande expérience qu'est la vie monastique et dont nous verrons à quel point elle est importante pour la suite. Voilà les grandes étapes que nous avons parcourues ensemble, très modestement, très simplement, et je vous rappelle, comme je l'ai dit à plusieurs reprises aussi, à quel point ce que je penserais avoir réussi à faire avec ces petites vidéos, c'est lorsque j'aurai donné aux uns et aux autres l'envie de prolonger. C'est pour ça qu'à la fin, il faut évoquer quelques lectures. Parce que si mon bavardage n'enclenche pas là-dessus, sur votre propre recherche, surtout sur la réception par chacun d'entre nous de ce trésor d'expérience, de sainteté, voilà. Vous et moi, on aura perdu notre temps devant Internet, ce qui arrive hélas un peu souvent, mais et ce qui aurait été fort dommage. Par contre, si j'ai réussi à susciter chez vous l'intention d'approfondir les choses, alors ce sera une grande récompense, plus que les petits pouces ou les partages, mais qu'il ne faut pas oublier non plus. Voilà. Alors, quelques lectures que je peux conseiller. évidemment, à tout seigneur, tout honneur, la grande histoire de l'Église de Daniel Robbs. Elle a donné le goût de l'Église à beaucoup, à commencer par votre serviteur. C'est un chef-d'œuvre par son ampleur, par son désir de présenter les choses. Alors évidemment, les historiens professionnels chipotent, parfois en la traitant de belle infidèle, peu importe. En tout cas, il y a encore quelques semaines, une personne que je connaissais me témoignait de sa joie d'avoir découvert et d'avoir commencé à parcourir avec cette histoire sainte avec Daniel Robbs. Il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Il y en a des plus courtes. Je pense au petit ouvrage de Don Guy Houry, moine bénédictin de Solesmes. Je crois que c'est aux éditions CLD. Je pense à un très bel ouvrage aussi sur lequel je m'appuie, peut-être que les plus malins d'entre vous s'en seront rendus compte, de Paul Christophe aux éditions MAM des Clés, qui s'appelle « 2000 ans d'histoire de l'Église ». Voilà. Donc là, vous avez déjà un petit volume, un plus gros volume, j'allais dire une saga ou une série, celle de Daniel Robbs. Il y en a déjà là pour tous les goûts. Il en existe d'innombrables. Laissez-vous tenter. Pour les premiers siècles d'Église, il existe aussi une collection qui s'appelle « Les Pères dans la foi », de petits ouvrages avec un petit traité de saint Augustin, quelques lettres d'un autre auteur ecclésiastique, un texte tertulien, l'histoire de l'Église d'Eusèbe de Césarée. Bref, là aussi, le grand oublié de notre petite série. Mais voilà, on ne peut pas évoquer tout le monde. Bref, « Les Pères dans la foi », ça se trouve d'occasion aussi. C'est une collection qui a eu beaucoup de succès, qui est très bien faite, de belles présentations. « Le trésor de l'Église », le trésor des premiers temps de l'Église. « Les Pères dans la foi », je crois que ça s'appelle maintenant les éditions Migne. Enfin, de toute façon, vous tapez sur Internet, ça arrive tout de suite. Il y a déjà 200 ou 300 titres. Enfin, il y a vraiment une bibliothèque entière qui est un vrai trésor. Pour les plus érudits et pour les plus savants, il existe la fameuse collection des sources chrétiennes, mais là, c'est vraiment, je veux dire, avec le texte original, en regard de la traduction, avec des notes savantes, enfin ça, c'est vraiment le fin du fin. Voilà, quelques lectures, et puis on pourrait poursuivre aussi des collections de vies de saints dans lesquelles il y a les vies des martyrs. La légende dorée, bien sûr, irremplaçable. Voilà, je m'arrête là. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des titres plus précis sur des questions que l'on a évoquées. Je serai très heureux de répondre à vos questions, à vos critiques aussi, et à vos remarques. Et chers amis, eh bien écoutez, encore merci à l'équipe de l'Homme Nouveau. Merci à vous pour votre équipe, votre écoute et votre patience. Et peut-être rendez-vous pour une autre saison. J'envisage l'Église des Pères. Voilà. À très bientôt, je l'espère.